Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. La semaine avance. Oh, on est déjà mercredi, on est toujours très très heureux de vous retrouver. Et en plus, aujourd'hui, on a un nouvel anniversaire à célébrer.
Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi du but. Et marche à l'ombre.
Renaud, éternel loupard avec son blouson noir et son mythique bandana rouge sur la pochette du disque Marche à l'ombre. Il fête ses 70 ans aujourd'hui.
Et 42 ans après Marche à l'ombre, Renaud le perfecto, toujours sur le dos et de retour avec le disque Métèque. On lui souhaite un très bon anniversaire. Nous sommes donc le mercredi 11 mai dans l'actualité, Julien.
Le procès en appel des ex-dirigeants de France Télécom reconnus coupables il y a 2 ans en première instance de harcèlement moral. Souvenez-vous, on parle là de cette terrible vague de suicides de salariés de l'entreprise, c'était à la fin des années 2000.
Une trentaine d'entre eux s'étaient donné la mort après avoir pointé un management de la terreur.
D'où cette question que l'on pose ce matin sur Europe 1 à l'occasion de ce nouveau procès. Les souffrances au travail ont-elles baissé ou augmenté ces 15 dernières années? Sont-elles mieux prises en compte ou à l'inverse toujours ignorées? La crise sanitaire et ses bouleversements a-t-elle permis des avancées?
Autant de questions que l'on posera à Marie Peset, docteur en psychologie et spécialiste des souffrances au travail. Rendez-vous à 6h10.
Autre sujet au cœur de l'actualité ce matin, le bac 2022 démarre aujourd'hui avec les épreuves écrites de spécialité.
Littérature, maths, sciences de l'ingénieur pour le bac général, management et gestion ou hôtellerie et restauration pour les séries de la voie technologique, des spécialités en plus du tronc commun censé préparer les lycéens aux études supérieures comme le souhaite la réforme du bac.
Et après 2 ans de pandémie, ces épreuves de spécialité se tiennent donc pour la première fois depuis la mise en œuvre de la réforme.
Oui, mais en retard, à cause du Covid encore, ces épreuves écrites de spécialité étaient prévues à l'origine au mois de mars. Dans quel état d'esprit les lycéens abordent-ils ces premières épreuves du bac 2022? Nous serons à 5h45 avec Jean-Rémy Girard, le président du syndicat national des lycées, des collèges, des écoles et du supérieur.
Et votre partition pour conclure?
Figure du mythique Studio 54 à New York et du légendaire Palace à Paris.
Oh, il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
La déesse des soirées pailletées sans fin, Grace Jones, dans la partition à 6h20.
La météo pour commencer cette matinale. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Ombline.
Bonjour.
Les seins de glace débutent sous la chaleur.
Eh oui, je vous avais dit de vous méfier du froid le matin jusqu'aux seins de glace. Le froid n'aura pas été là. Bien au contraire, hein, pour le début de ces seins de glace. On risque d'avoir la journée la plus chaude de la semaine, en tout cas pour l'est du pays, jusqu'à 30 degrés à Lyon cet après-midi. Alors en face, de l'autre côté, au bord de l'Atlantique, là les températures vont baisser. On aura 19 à La Rochelle, on avait 25 hier, donc ça baisse au bord de l'Atlantique à cause des nuages. Dans le ciel, on a toujours des brouillards ce matin entre les pays de la Loire et les Landes. Soyez prudents, des nuages bas également au bord de la Manche. Attention donc à ces grisailles. Du vent aussi hein, sur la côte bretonne et le Cotentin, jusqu'à 50 km. Partout ailleurs, le soleil brille dès ce matin et tout au long de la journée. Cet après-midi, ça va rester très agréable, sauf sur le nord-est où là, c'est bien plus nuageux. 6 à 16 degrés ce matin et cet après-midi, je vous le disais, 19 à 22 sur la côte atlantique et les pays de la Loire en particulier, jusqu'à 30 degrés à l'est du pays.
C'est noté, merci beaucoup Anissa Haddadi et à tout à l'heure pour une nouvelle météo. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h. Rien n'est fait, rien n'est écrit, battez-vous. Le message d'Emmanuel Macron hier au candidat La République en marche législative, le chef de l'État qui semble prendre à bras-le-corps la campagne qui s'annonce. La CIA en est persuadée, après le Donbass, Vladimir Poutine vise la Transnistrie, région séparatiste de Moldavie qui a fait sécession en 1990. Et puis c'est une information Europe 1, une nouvelle affaire de ripoux, plusieurs policiers soupçonnés de fraude au plus haut niveau. Les précisions dans ce journal.
Europe Matin. Roche et Julien Pierce.
Journal qui vous est présenté par Johan Triz. Bonjour Johan.
Bonjour à tous. Battez-vous, un Emmanuel Macron conquérant et rassembleur à Aubervilliers hier à un mois des législatives. Le chef de l'État s'est déplacé au doc d'Aubervilliers où étaient formés les candidats de l'AREM à la députation. Un président engagé à 100% dans la bataille qui s'annonce. Arthur Delaborde.
Vous n'avez qu'un devoir et une responsabilité, aller partout pour convaincre et mobiliser, a expliqué Emmanuel Macron au candidat de la majorité pour les législatives. Il n'y a aucun territoire perdu, aucun gagné, a-t-il insisté. Dans l'attente de la nomination de son Premier ministre, c'est donc le président qui se pose lui-même en chef de la majorité, d'autant qu'il se murmure qu'il aurait validé personnellement les investitures circonscription par circonscription. Un fantasme, expliquent les membres de sa garde rapprochée, comme le patron patron de La République En Marche, qui deviendra bientôt Renaissance, Stanislas Guérini.
J'entends parfois qu'il aurait validé chaque ligne d'investiture, etc. Je pense qu'il ne faut pas vivre avec ces fantasmes-là. Mais en revanche, que le président de la République puisse s'intéresser à sa future majorité, pardon, mais je crois que je vous ferais de la langue de bois si je ne vous disais pas que c'est normal. C'est celle qui va lui permettre d'avancer et d'agir.
Avancer et agir pour porter le seul projet de clarté, a également expliqué Emmanuel Macron, face à l'extrême droite, synonyme à ses yeux d'exclusion, et à l'extrême gauche, incarnant selon lui le communautarisme.
Arthur Delaborde à Aubervilliers pour Europe 1. L'AREM qui compte à ce jour 500 candidats pour les législatives.
Et ça accélère aussi à gauche.
Oui, la France Insoumise a dévoilé 328 candidats pour les législatives sur les 360 prévus. Le PS, 56, mais des points de désaccord subsistent au sein de la NUP. Surtout un à Vénissieux, en banlieue lyonnaise, où Taha Bouaf s'est retiré hier suite à la pression. Le Parti communiste pousse pour que le maire de la ville soit choisi à sa place. Il n'en est pas question pour LFI qui compte bien investir l'un de ses membres.
Jusqu'où va s'arrêter Vladimir Poutine? C'est la question que l'on se pose ce matin. D'ailleurs, d'autant que selon le renseignement américain, le chef du Kremlin viserait un autre territoire après le Donbass.
Oui, une information de la CIA, la directrice du renseignement s'est exprimée hier devant le Congrès américain. Elle détaille les plans du Kremlin.
Les objectifs à court terme de la Russie sont de capturer les régions de Donetsk et Luhansk, d'en faire une zone tampon, d'encercler les forces ukrainiennes à l'ouest du Donbass, depuis le nord et le sud, de consolider le contrôle sur la bande de terre qui relie la Crimée au Donbass, d'occuper la ville de Kherson. Et nous avons également des indications selon lesquelles l'armée russe veut étendre cette bande de terre jusqu'à la Transnistrie. Bien que l'armée russe est capable d'atteindre la plupart de ses objectifs dans les mois à venir, nous pensons qu'elle ne sera pas en mesure d'étendre le contrôle sur cette bande de terre qui inclurait Odessa et la Transnistrie sans une mobilisation de ses réservistes. Et il est de plus en plus improbable que l'armée russe soit en mesure de contrôler les deux régions et la zone tampon souhaitée dans les semaines à venir.
Propos qui font froid dans le dos et recueillis par Alexis Guilleux à Washington. Vladimir Poutine, dans cet objectif de guerre longue, envisagerait d'instaurer la loi martiale en Russie.
5 heures passées de 4 minutes sur Europe 1 et on en vient à cette information qu'on vous révèle ce matin, une affaire qui ébranle la police, une fraude au concours de commissaires.
Oui, considéré comme l'un des plus difficiles de la fonction publique, la police des polices se penche sérieusement sur des soupçons de tricherie. Une enquête a déjà été ouverte, William Molinier.
Oui, l'IGPN a perquisitionné hier les locaux de la Direction Générale de la Police Nationale, bâtiment mitoyen de la place Beauvau. Selon nos informations, les bureaux de deux policiers sont au cœur des investigations, celui d'une officier commandante. Elle travaille à la direction juridique du cabinet de Frédéric Vaux, le patron de la Police Nationale. Cette policière, anciennement avocate et dont le mari est commissaire général à la préfecture de police, est soupçonné d'avoir fraudé au concours de commissaire par la voie d'accès professionnel, et ce, avec la complicité du président du jury qui occupe lui aussi un poste important de conseiller aux côtés du patron de la police nationale. Il s'agit de Frédéric Dupuche, un inspecteur général haut fonctionnaire, suspecté donc de lui avoir transmis des renseignements sur les épreuves écrites du concours. Selon nos informations, la police des polices est remontée jusqu'au protagoniste grâce à des écoutes dans une autre affaire. Et donc une enquête sur cette collusion supposée a été ouverte vendredi dernier par le parquet de Paris. Les épreuves de ce concours, qui concernent une quinzaine d'admis chaque année, ont été provisoirement suspendues, mais pas celles de deux autres concours d'entrée, internes et externes, qui pour l'heure en tout cas ne sont pas concernés par les investigations.
Les informations de William Molinier pour Europe 1.
Et un autre concours débute en ce mercredi 11 mai, le bac 2022 pour des milliers de lycéens.
Oui, et dans quelques heures, les cerveaux vont chauffer dans les salles d'examen. 523 000 lycéens vont entamer les épreuves de spécialité du baccalauréat. Et il ne s'agit pas de se louper sans vouloir mettre trop de pression. C'est un très gros coefficient, cela représente un tiers de la note finale.
Et on en reparlera d'ailleurs à 5h40 avec votre invité Omblin Roche, syndicaliste spécialiste de ce bac 2022, j'ai oublié son nom.
Il s'appelle Jean-Rémy Girard, président du SNALC.
De la transpiration, quoi qu'il en soit, en vue pour les lycéens, par le stress mais aussi à cause de la chaleur.
Oui, une nouvelle chaude journée prévue aujourd'hui, cela dure depuis longtemps, trop longtemps. Le déficit de précipitation entre septembre dernier et avril 2022 atteint 19%. Un problème pour les agriculteurs, les cultures de blé, d'orge ou de maïs vont souffrir.
Mais ce soleil fait aussi des heureux.
Oui, dans le secteur des fruits, Françoise Roch, présidente de la Fédération nationale des producteurs, s'attend à des effets bénéfiques.
Si on a des pluies, on a les fruits qui sont plus gorgés d'eau, Et donc, on ressent moins le sucre. Et si le fruit il est un peu moins gorgé d'eau, automatiquement, son taux de sucre augmente et ça se sent beaucoup plus. Et après, on a tous les arômes qui se développent, etc., quand le fruit est un petit peu plus concentré, qu'il est moins gorgé d'eau. Disons que pour les consommateurs, une année comme celle-ci, si le soleil continue, on aura des fruits beaucoup plus goûteux, plein de soleil, plein de sucre, plein d'arômes. On sait pertinemment que le consommateur, quand il goûte nos fruits, il revient grâce au goût et va nous suivre toute la saison pour nos fruits d'été et qu'on pourra et lui faire plaisir et que nous, on devrait passer une bonne saison.
Au micro de Yasmina Katoupo, Europe 1.
C'était dans les tuyaux depuis un moment. La Ligue des Champions va changer de formule en 2024.
Oui, une réforme entérinée par l'UEFA. Mais qu'est-ce qu'il va changer, Cyril de la Morinerie?
Oui, avec cette réforme, il y aura 64 matchs de plus de Ligue des Champions par saison. Fini la phase de groupe, à la place, un mini-championnat en 8 journées avec 36 formations engagées au lieu de 32 actuellement. Les 8 premières équipes se qualifieront directement pour les 8e de finale. Celles qui se classeront de la 9e à la 24e place passeront par des barrages. Les autres seront éliminées. Les rencontres continueront de se dérouler en milieu de semaine. La France n'est pas oubliée. Dès 2024, 3 clubs français seront directement qualifiés en Ligue des Champions, au lieu de 2 actuellement. Enfin, 2 places additionnelles seront attribuées aux 2 meilleures nations européennes sur la saison précédente. Dans un communiqué, le président de l'UEFA se félicite d'avoir trouvé un consensus. La formule choisie est harmonieuse et va augmenter l'attrait et la popularité de nos compétitions, explique Alexander Seferin. Avec cette réforme, l'UEFA espère couper définitivement l'herbe sous le pied au club mutin qui avait il y a un an présenté un projet controversé de Super League.
Les précisions de Cyril de la Morinerie pour Europe 1.
Merci beaucoup Johan Tritz pour ce journal.
Il est 5h09 et on passe aux courses avec le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Fontainebleau et mon pari gagnant sera le 508 Twist. Très bien né, il n'a pas raté sa course de rentrée après avoir été absent plus de 9 mois en s'imposant de bout en bout le 1er avril à Chantilly. Cette stratégie de course, aller de l'avant, est souvent payante sur cet hippodrome de Fontainebleau et grâce à la décharge mais aussi au talent de son jeune apprenti Arthur Mossé, il devrait pouvoir sans aucune difficulté doubler la mise. Alors notez bien, pour cet après-midi à Fontainebleau, réunion 1 dans la 5e course, le numéro 8. Twist.
Le numéro 8, c'est bien noté. Merci beaucoup Thierry Léger et à tout à l'heure dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Et avec Martin Lange pour les 3 histoires du pressing. Bonjour Martin.
Bonjour Martin.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
On commence comme chaque matin avec vos journaux et ce jeu de mots en une de Libération. La sécheresse arrive au boulot, au EAU. On vous en parlait dès hier, 15 départements connaissent des situations d'alerte. Des solutions existent, écrit Libé, mais elles demandent une vraie volonté politique. Autre jeu de mots sur le même sujet, sec, quoi les solutions? C'est quoi les solutions? C'est la question posée en une de 20 minutes qui s'est rendue à Jouc dans les Bouches-du-Rhône où la rivière qui traverse ce village pourrait disparaître à jamais à cause de la sécheresse. Et même le Figaro tente un jeu de mots ce matin, un jeu de mots timide. Macron face au casse-tête de l'après Castex. Titre Le Quotidien. Voilà.
Oui, c'est joli.
C'est rare que le Figaro tente des jeux de mots. On salue l'initiative. Omblin, quel article avez-vous sélectionné ce matin?
Alors je vous présente Charlotte, 45 ans, assistante commerciale, habitante de la ville charmante de Saint-Maurice, dans le département du Val-de-Marne, en région parisienne. Charlotte, un exemple à suivre, c'est le Parisien qui brosse son portrait. Cette mère de famille ne contribue pas seulement à sauver la planète, elle aide aussi des associations. Il y a 10 ans, elle découvre l'existence de l'entreprise TerraCycle, spécialisée dans le traitement des déchets considérés comme difficiles à recycler. Par exemple, les gourdes de compote, les emballages de cosmétiques, les dosettes de la marque Tassimo aussi. On ne peut pas le mettre dans la poubelle jaune. Les stylos, les tubes de dentifrice, des déchets dits non recyclables. Ils nécessitent un traitement particulier et donc une collecte à part, ces déchets. Vous pouvez les envoyer ensuite à la plateforme de recyclage TerraCycle, ce qui vous permet d'accumuler des points et ces points se transforment en argent. Donc sachez que tout le monde peut le faire. Et Charlotte, eh bien, est emballée par l'idée d'apporter sa contribution. La première année, elle récolte, il y a 10 ans, donc elle récolte ses gourdes de compote et ses stylos en fin de vie auprès de ses proches. Tout rentre dans un petit sachet. Elle réussit à gagner 30 euros, argent qu'elle reverse aussitôt à une association. Aujourd'hui, dit-elle, ça ne rentre plus dans ma Twingo. Oui, Charlotte a élargi son champ d'action. Elle tient différents points de collecte dans sa ville, à la bibliothèque par exemple, ou dans une école. En 10 ans, elle a récupéré 1 million de déchets. Elle a perçu 8 000 euros en tout. Alors vous l'avez compris, hein, le but de sa démarche n'est pas de garder l'argent, mais d'en faire profiter des associations. Et des associations aux actions, ma foi, très diverses. L'an dernier, elle a aidé les étincelles de Luca, qui vient en aide à un enfant paralysé, mais aussi Tekel sans doux foyer. C'est pour les chiens, exactement. Ouais, ouais. Mais c'est une association pour laquelle Charlotte s'est engagée il y a 10 ans.
À Poil Dur ou à Paul
Laurent ? Les deux, j'ai vérifié.
Okay. Ça vous intéresse, Julien ?
Je suis un
toujours.
Expert canin, moi. Vous savez.
Oui, forcément. Et elle est membre de cette association Tekel sans doux foyer, Charlotte, depuis 10 ans, au moment où elle a découvert l'existence de TerraCycle. Investi, organisé, Charlotte tient des registres minutieux des déchets récoltés et des comptes précis de l'argent versé. Ça lui a même valu d'être contactée par TerraCycle, qui lui a proposé du travail à Londres. Mais Charlotte préfère rester bénévole. Voilà, c'est un article du Parisien ce matin et c'est une très belle initiative qu'on aime saluer, qu'on souhaite saluer.
Effectivement, voilà une femme très engagée et engageante. Merci beaucoup, Omblin. Martin, c'est à vous.
Oui, avec une cavale qui a passionné l'Amérique, les Bonnie and Clyde de 2022, selon la presse outre-Atlantique, hein, dont la fuite s'est terminée tragiquement lundi dernier dans l'Indiana. Lui s'appelle Casey White, colosse de 2,06 m, multirécidiviste, condamné à 75 ans de réclusion. Il purgeait sa peine dans une prison de l'Alabama. C'est là qu'il a rencontré Vicky White, aucun lien de parenté, hein. Tout l'oppose d'ailleurs à son boyfriend délinquant, elle, la petite employée pénitentiaire modèle, à la vie bien rangée. Pourtant, le 29 avril dernier, hein, c'est elle qui a berné toute la prison. Vicky prétexte une évaluation psychologique au tribunal. Rien de bien surprenant, hein, puisqu'elle s'occupe des transferts de prisonniers pour le shérif. Ça lui permet d'extraire Casey de sa cellule. Et là, celle que le procureur qualifie de personne la plus fiable de la prison a tout prévu. Elle a laissé un véhicule de substitution sur le parking d'un centre commercial à quelques encablures de là. Voiture achetée sous un nom d'emprunt, bien sûr, et ensuite abandonnée dans une fourrière du Tennessee. Comme elle a plus d'un tour dans son sac, hein, Vicky a aussi vendu sa maison, retiré 90 000 dollars en liquide et acheté des vêtements civils. Bref, au début de l'enquête, hein, la police est au point mort. Elle offre même une prime, 25 000 dollars en échange de toute information sur les deux fugitifs.
Et qui ont donc été retrouvés, Martin, 10 jours plus tard.
Oui, après avoir traversé au moins 4 états, ils sont repérés par les caméras de surveillance d'une station de lavage de voitures dans l'Indiana, c'était lundi dernier. À bord d'un pick-up, ils sont pris en chasse par les forces de l'ordre. Une course-poursuite qui s'est malheureusement très mal terminée. Leur véhicule est accidenté, Casey White se rend. Mais pour Vicky, hein, le sentiment de culpabilité est sans doute trop fort. La femme de 56 ans se tire une balle dessus. Elle décède quelques heures plus tard des suites de ses blessures. Une fin de cavale tragique, hein, comme promis, digne de Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi ?
Aux États-Unis, fin de cavale pour un détenu dangereux et une gardienne complice, c'est à lire sur le site du Huffington Post.
Ça ferait un bon film.
Exactement. Un bon
thriller. Moi, je suis sûr que c'est déjà en cours de, cours de production. Ils sont tellement réactifs déjà à Hollywood. Merci beaucoup, Martin. J'ai choisi pour ma part un article du Figaro.fr qui nous emmène chez nos voisins, en Belgique, pays fantastique s'il en est, mais qui, comme chez nous, doit composer avec quelques raideurs administratives et non rigueurs, comme sont en train de le découvrir les pompiers de la région de Mons. Car en termes de rigueur, leur employeur en manque cruellement. Leur employeur, c'est la zone de secours du Hainaut, qui regroupe plusieurs casernes, dont celle de Mons, où une centaine de soldats du feu a reçu au début du mois un courrier recommandé. Une lettre signée de leur direction, les informant qu'ils ont reçu un salaire plus élevé que prévu sur une période pour le moins large, puisqu'elle va de 2015 à 2021. Nous vous avons indûment versé la somme de 11 641 euros. Voilà ce que l'on peut lire sur l'un des courriers envoyés par la zone de secours du Hainaut, qui compte bien récupérer son argent, et ce, au plus vite. Car voyez-vous, s'il est écrit noir sur blanc dans ces lettres qu'une boulette a été commise dans le mode de calcul des horaires de nuit et de week-end, erreur dont ne sont absolument pas responsables les pompiers, ces derniers sont tout de même sommés de rembourser le trop perçu immédiatement, en une seule fois. Or, certains,
oui, c'est rigide, effectivement.
Voilà, oui, effectivement. Or, certains d'entre eux se voient réclamer plus de 20 000 euros, une coquette somme que beaucoup n'ont pas sur leur compte en banque à l'instant T. C'est la panique, reconnaît Éric Labourdette, le bien nommé représentant syndical, qui s'est emparé du dossier.
Vous l'avez fait exprès.
Non, c'est son vrai nom.
C'est son vrai nom.
Voilà, c'est pas un pseudonyme. Éric Labourdette qui dit, sur le principe, il n'y a pas de problème, tout le monde est OK pour rembourser, mais pas une seule fois, comme veut l'imposer l'employeur, ce qui est d'ailleurs contraire à la loi belge, elle impose de trouver un accord pour échelonner les paiements. C'est ce qu'a donc tenté le syndicaliste Labourdette. Il a tenté à plusieurs reprises de contacter la direction pour négocier la méthode de remboursement. Il n'a obtenu aucune réponse. Tout comme le cabinet d'avocats qu'il a saisi, les multiples courriers et emails adressés à la zone de secours du Hainaut sont restés lettres mortes. Scandaleux, dénonce le représentant qui a décidé de saisir la Cour des comptes belge, laquelle doit désormais se pencher sur les finances de l'institution réclamant les fonds. En attendant, les pompiers concernés ont pour consigne de se rendre à la convocation inscrite dans le courrier, mais de ne rien signer sans demander conseil à leur syndicat. Le syndicaliste Labourdette veille au grain. Des pompiers belges vont devoir rembourser jusqu'à 20 000 euros à cause d'une erreur dans leur salaire, c'est-à-dire sur le site du Figaro.
Ça pourrait faire un beau film aussi.
Mais
la suite,
la suite bon
de Dickeneck.
Ouais, mais pas avec les mêmes acteurs, j'imagine.
Oh, il faut garder le nom, hein, ouais. Labourdette. Ouais. C'est un nom de héros, ça. Merci beaucoup, Julien. Merci, Martin. On se retrouve dans 40 minutes pour les sports.
À tout à l'heure.
Super, à tout à l'heure.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h18 sur Europe 1. Soyez tous les bienvenus. Les principaux titres de ce mercredi avec Johan Tritz.
Il ne faut pas se laisser intimider. Emmanuel Macron a motivé hier ses troupes au doc d'Aubervilliers, un mois des législatives. Un président conquérant qui a pris en main la campagne dans son camp. Emmanuel Macron mis en garde par la Banque Centrale de France. Le président qui prévoit 15 milliards de baisse fiscale, pardon, une mauvaise idée pour la BCE alors que le taux et le coût de la dette va remonter. La CIA en est persuadée. Après le Donbass, Vladimir Poutine veut annexer la Transnistrie, une région séparatiste de Moldavie, déjà sous le giron russe. L'Ukraine demande de nouveau à l'UE de l'intégrer. C'est devenu une question de guerre ou de paix, a dit le porte-parole ukrainien Dmitri Kuleba. Top départ pour le bac. Un demi-million de lycéens va entamer aujourd'hui les épreuves de spécialité et ça va durer jusqu'à vendredi.
C'est à présent la chronique de celles et ceux qui font bouger les lignes sur Europe 1. Les initiatives en France nous emmènent en Gironde.
Bonjour François Capitaine.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le cofondateur de la société Mostiglas. Et c'est aussi le nom de votre produit, une moustiquaire révolutionnaire qui, en plus d'arrêter les moustiques, rafraîchit l'air. Expliquez-nous.
C'est un produit un peu particulier. D'abord, c'est une moustiquaire, la seule moustiquaire validée par un organisme accrédité par l'OMS sans insecticide. Donc, c'est une première rien que pour ça. Nous avons fait valider par un laboratoire que nous avons la chance d'avoir en France le fait qu'il soit 100% efficace aux moustiques tigres, même après l'utilisation, la pose, etc. Donc c'est déjà une bonne performance, nous le jugeons en tout cas comme ça. Et c'est vrai qu'il y a une propriété un petit peu particulière, c'est que les trous qui sont faits dans le matériau que nous utilisons, qui est transparent comme une vitre, ces trous sont d'une forme un petit peu bizarre, une forme de cône. Et cette forme de cône permet à l'air chaud qui rentre dans le trou d'être refroidi par ce qu'on appelle une détente adiabatique. Et par exemple, quand l'air chaud extérieur est à 29 degrés, il rentre à l'intérieur de votre bâtiment, de votre salle, de votre salon, à 25 degrés.
Ah oui, ce qui baisse considérablement la température, le tout sans qu'il y ait la moindre dépense énergétique.
Oui, ça ne remplace pas une climatisation, hein, ce n'est pas un climatiseur. Par contre, vous avez raison, une fois installé à la fenêtre de façon correcte, hein, on donne des conseils pour le faire d'ailleurs, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de fil électrique, il n'y a pas d'énergie derrière tout ça. C'est un dispositif qu'on appelle low-tech qui réagit par lui-même, simplement par le passage de l'air chaud.
Et on peut, je crois, gagner jusqu'à 10 degrés les jours de très forte chaleur, les jours de canicule, c'est ça ?
Alors, en effet, donc ce dispositif a été expérimenté par l'Université de Bordeaux et un laboratoire spécialisé dans l'énergétique des bâtiments. Et ces universitaires, lorsqu'ils l'ont mis en œuvre, se sont aperçus que dans les fortes chaleurs, on pouvait gagner presque 10 degrés, en effet. Alors, heureusement pour nous, ces fortes chaleurs ne sont pas présentes encore souvent en métropole. Par contre, vous savez qu'en 2003, il y a eu une canicule et on a observé des températures très élevées. Et c'est si ce type d'épisode se reproduit, oui, en effet, on pourra gagner en métropole à ce moment-là 10 degrés. Et dans d'autres pays, malheureusement, c'est déjà le cas.
Comme en Inde actuellement, qui subit une canicule absolument terrible. Ces moustiquaires, elles peuvent être souples ou rigides ?
Tout à fait. Il y a deux produits différents. Donc le produit qui rafraîchit, c'est le produit rigide. Mais une des versions est une moustiquaire Mostiglas souple qui se met dans un enrouleur, par exemple, ou qui se met comme traditionnellement à la fenêtre, comme l'étoile habituelle. Elles ont le bénéfice d'être particulièrement transparentes et 100% efficaces aux moustiques tigres. Ceci dit, le produit que nous mettons en avant plus particulièrement, c'est Mostiglas rigide, puisque c'est rigide comme une vitre. Ça a une résistance au choc inégalée, puisque certains constructeurs de fenêtres ont fait des tests d'un lancer d'un sac de 50 kg de sable sur un mètre carré de Mostiglas sans qu'il y ait de cassure. Donc vous vous rendez compte de la résistance globale de cette moustiquaire. Et en plus, cette version rigide a l'effet de rafraîchissement, puisqu'il faut une certaine épaisseur pour obtenir le rafraîchissement.
Comment vous est venue l'idée de créer ces moustiquaires, de créer Mostiglas ?
Alors, c'est nos observations personnelles d'abord, parce que nos métiers nous ont amené, mon épouse Nathalie et moi-même, à aller au travers du monde, en Australie, aux États-Unis, en Afrique, etc. Et en fait, on s'est aperçu que le produit qui existait était toujours le même, pas très joli, et surtout pas très efficace dans les zones où il y avait vraiment un problème de maladie. Jusqu'au jour où, toujours notre métier nous a amené sur l'île Maurice, où je gérais un atelier de production, et on s'est aperçu là-bas que le moustique infecté était vraiment une plaie sur laquelle il fallait lutter. Et nous avons mis en place donc les premiers prototypes de Mostiglas pour éviter d'avoir de l'insecticide. Parce que toutes les moustiquaires aujourd'hui recommandées par l'OMS ont un insecticide. C'est pour ça que nous avons choisi aussi d'avoir quelque chose d'aérant, transparent, résistant au choc, produisant un certain refroidissement et 100% efficace aux moustiques.
Et quels sont vos clients aujourd'hui ?
Alors, nos clients sont multiples. Les premiers à avoir réagi sont les particuliers. Par contre, aujourd'hui, nous avons beaucoup de collectivités ou d'industries. Par exemple, la ville de Paris, la ville de Montpellier, la ville d'Agde, la ville de Mérignac, près de Bordeaux, sont des villes qui ont réagi et qui ont équipé en particulier des crèches ou des petites écoles, parce qu'en fait, le public très jeune est plus sensible à la chaleur aussi. Alors, nous équipons aussi des cuisines, puisque vous savez que dans les cuisines, les insectes sont pas bienvenus pour des raisons sanitaires.
Et combien coûte une moustiquaire Mostiglas en moyenne ? Évidemment, on a bien compris que tout dépend de la surface et du modèle choisi, mais en moyenne environ.
Oui, puisque nous faisons des fenêtres, mais nous faisons des portes aussi, des coulissants pour des grandes baies vitrées, etc. Donc on va prendre une solution simple, Mostiglas avec des bandes magnétiques qui permettent de se mettre sur des, par exemple, des fenêtres avec des volets roulants de manière très simple. Il y a un budget inférieur à 200 euros TTC. Avec l'expédition chez vous.
Et on commande directement sur votre site internet mostiglas.fr. Merci beaucoup, François Capitaine, de nous avoir présenté cette moustiquaire 2 en 1 et 100% française. On vous souhaite beaucoup de succès et on vous dit à très bientôt sur Europe 1.
Merci à vous et à bientôt, oui.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Bonjour, bon réveil avec Europe 1. À suivre dans 2 minutes le journal de 5h30 de Christophe Lamarre, où l'on va se pencher sur des copies de plus en plus illisibles à l'occasion du bac 2022. Il commence aujourd'hui avec les premières épreuves écrites.
Oui, les lycéens des séries générales et technologiques vont plancher jusqu'à vendredi sur les copies des 2 enseignements de spécialité qu'ils ont conservés en terminale en complément du tronc commun. Une première depuis le début de la réforme du bac. Et après 2 ans de pandémie, on en parle également dans un quart d'heure avec Jean-Rémy Girard, le président du syndicat national des lycées, des collèges, des écoles et du supérieur.
On accueillera ensuite Laurie Choleva pour les nouvelles sorties cinéma.
Oui, un nouveau film de Viking impressionnant, nous dira Laurie. Ça s'appelle The Northman et la comédie On sourit sur la photo avec notamment Jacques Gamblin. Rendez-vous à 5h50.
Est-ce qu'on sourit sur la météo avec Anissa
Adadi. Et puis en débardeur, là, on peut sourire, est bien. Hein, on est très très bien.
Alors, du soleil pour presque tout le monde.
Du soleil pour presque tout le monde, en effet. Et puis alors, ça sera débardeur à l'est du pays. Et t-shirt avec peut-être une petite veste pour l'ouest. Les températures sont très contrastées aujourd'hui. Mais enfin, on risque quand même de vivre la journée la plus chaude de la semaine. Sauf sur le nord-ouest, vous l'avez compris. Alors ce matin, on a du soleil partout. partout sauf sur le Finistère et sur la pointe du Cotentin. Et puis au fil des heures, vous allez voir, les nuages vont arriver jusque sur la région nantaise. Ces nuages sont épais et ils seront même porteurs de quelques gouttes. Bon, bah ailleurs, il y a franchement rien à dire, hein. C'est un soleil radieux, il y a encore moins de passages nuageux qu'hier. Et puis il y a du vent marin sur le Roussillon à 60 km/h. Alors ce matin, on a 6 degrés à Charleville-Mézières, 9 à Rouen, à Quimper, 11 à Belfort, 13 à Paris, 16 à Nice. Cet après-midi, le contraste, je vous le disais, 17 à Brest, 19 à Biarritz, 21 au Havre, 25 à Lille, 27 à Paris, 30 à Clermont-Ferrand, 31 à Brive et 32 du côté de Lyon. Donc, grande différence entre l'Est et l'Ouest.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1, il est 5h30.
Europe 1.
Et à la une de ce jeudi, le grand jour pour les 523 000 candidats au bac 2022. Ils vont commencer par les épreuves de spécialité. Il faudra penser à soigner l'écriture pour ne pas fâcher les correcteurs. C'est une tendance de fond. De plus en plus de copies sont littéralement illisibles. La campagne pour les élections législatives, la majorité présidentielle menacée par la dissidence des recalés de l'investiture. Dans le Finistère, par exemple, le député En Marche sortant Jean-Charles Larsonneur maintient sa candidature. Et puis le tennis, Roland Garros débute dans 11 jours. Les néo-retraités Joe Wilfried Tsonga et Gilles Simon obtiennent une invitation. Ils pourront faire leurs adieux au public parisien.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. À vos marques, prêts, planchés. 523 000 candidats passent le bac 2022 à partir d'aujourd'hui. Ils commenceront par la nouveauté de ce cru, les épreuves dites de spécialité, examen écrit dans la plupart des cas. Et c'est là que les choses pourraient se gâter. On ne parle pas de fond, mais de forme. Comme les copies sont destinées à être scannées, elles font ressortir un défaut récurrent, la lisibilité. Beaucoup d'élèves ont tout simplement du mal à écrire correctement et ça peut les pénaliser, Louise Salé.
Moins d'heures d'écriture au CP, peut-être trop de claviers à la place des stylos. L'écriture des lycéens se dégrade. Ils sont nombreux à consulter des graphothérapeutes comme Audrey Bietolini.
À l'approche de la période des examens, effectivement, j'ai davantage de demandes de lycéens qui sont alertés par les professeurs par rapport à leur lisibilité. Le soin, la maîtrise du geste passe après, avec des lettres formées à l'envers ou des lettres cabossées, par exemple.
Un correcteur du bac ne peut pas refuser d'évaluer une copie mal écrite, mais cela peut l'agacer, insiste Aude Denisot, ancienne professeure de lycée.
Le correcteur est un être humain, ce n'est pas une machine. Et même s'il essaie d'être impartial, lorsque la copie est mal écrite, il est fatigué, il est énervé. Et il peut donc, même sans s'en rendre compte, être plus sévère qu'il ne l'aurait été si la copie avait été bien écrite.
La numérisation des copies rend la tâche encore plus difficile. Marc Charbonnier enseigne l'histoire géo en région parisienne et corrige le bac.
Le débat, notamment dans la communauté enseignante, c'est celui en effet de la fatigue liée à la surutilisation des écrans. Ça peut provoquer, oui, une fatigue supplémentaire.
Pour des lettres bien visibles au scanner, les stylos à encre noire sont à privilégier.
Louise Salé poursuit des épreuves de spécialité jusqu'à vendredi. La philosophie, ce sera le 15 juin, fin des épreuves du bac le 1er juillet avec le grand oral.
On en vient à la campagne pour les élections législatives. La majorité présidentielle se met en ordre de marche, mais c'est un peu plus compliqué que prévu.
Emmanuel Macron est venu motiver les troupes hier à Aubervilliers. Tout près de Paris, les 500 candidats investis par La République En Marche étaient réunis. Séminaire de formation accélérée et opération cohésion. Dans certaines circonscriptions, ils devront affronter un rival qui est aussi un jumeau politique, c'est-à-dire un élu La République En Marche recalé, mais déterminé à se présenter malgré tout. C'est le cas dans le Finistère où le député sortant Jean-Charles Larsonneur n'accepte pas le parachutage d'un proche de Richard Ferrand à son détriment.
Je m'interroge simplement sur l'approche qui est suivie, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit de placer ses copains d'abord ou est-ce qu'il s'agit de travailler dans l'intérêt de la majorité? Je ne suis pas sûr que le candidat investi ait tous les atouts pour s'opposer à une France insoumise qui est forte à Brest. Voilà. Il me semble que le candidat qui a travaillé, qui connaît ses dossiers maritimes, militaires, je l'ai dit, économiques, écologiques et bien d'autres encore, était probablement le plus à même de remporter cette élection, et l'est encore. Je constate qu'on a privilégié plutôt le copinage, voire une certaine forme de népotisme, à un choix de raison et un choix concerté et négocié.
Jean-Charles Larsonneur, candidat dissident de La République En Marche, il répondait à Alexandre Chauveau. À gauche, la France Insoumise publie une première liste de 324 candidats sans Tahar-Ouaf. Elle sera complétée dans les prochains jours avec ou sans Jean-Luc Mélenchon. L'homme qui se rêve Premier ministre n'a toujours pas tranché la question de sa candidature dans les Bouches-du-Rhône.
Et pendant ce temps, le gouvernement reçoit
sort les cartons et se prépare à passer la main.
Et oui, certains n'avaient pas d'ailleurs attendu pour commencer à ranger leurs affaires. Conseil des ministres aujourd'hui à Matignon. Cette fois, ce pourrait bien être le dernier de l'ère Castex. Tous les signaux vont dans ce sens, confie un conseiller de l'exécutif. L'ordre du jour n'en sera pas moins chargé avec la présentation d'un projet de loi sur le pouvoir d'achat.
5 heures passées de 34 minutes sur Europe 1. Face à l'effondrement des ventes de voitures neuves, les constructeurs cherchent la parade ou changent de stratégie. C'est le cas de Renault.
Un chiffre déjà, Julien, les ventes ont chuté de plus de 22% en avril par rapport à l'année dernière. L'automobile en passe de devenir un produit de luxe que l'on s'offre sur le tard. 57 ans, c'est l'âge moyen de l'acheteur. Deux solutions, monter en gamme, c'est-à-dire vendre moins mais plus cher, ou se rabattre sur l'offre de services autour de la voiture. C'est le choix de Renault, Carole Ferry.
Oui, et c'est la botte secrète sur laquelle mise Renault pour redresser ses comptes avec l'objectif d'une croissance à deux chiffres sur ce secteur d'ici 2027. L'idée, c'est d'avoir des voitures adaptées à chaque usage. Renault va lancer par exemple l'an prochain la Duo pour de la location de voitures à partager. Facile à nettoyer, facile à réparer, suffisamment étroite pour en garer trois sur une place de parking traditionnelle. Et avec ça, eh bien Renault va vendre le contrat de location, l'assurance, la maintenance, la recharge électrique, bref, tous les services qui vont avec. Dès la rentrée, la marque aux losanges va proposer le même concept mais avec des véhicules adaptés aux taxis et aux VTC. Et puis dernière cible, la livraison du dernier kilomètre, le nouveau casse-tête de la distribution de colis. En 2026, Renault devrait proposer des véhicules connectés qui pourront recalculer par exemple l'itinéraire le plus efficace quand un client est absent. À chaque fin de location longue durée, le groupe pourra remettre les véhicules à neuf dans ses usines, ce qui permet d'être très rentable. Une activité qui a pour objectif de représenter 20% du chiffre d'affaires de Renault d'ici 2030.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1.
La guerre en Ukraine va-t-elle s'étendre à d'autres pays européens? C'est en tout cas la crainte des Américains.
Vladimir Poutine vise non seulement la conquête du Donbass, mais aussi la Transnistrie, région séparatiste pro-russe de Moldavie. Avertissement de la patronne du renseignement américain qui craint une escalade du conflit. Les États-Unis toujours plus impliqués. Le Congrès débloque une aide de 40 milliards de dollars en faveur de l'Ukraine. Le texte doit encore passer devant le Sénat.
En Grande-Bretagne, l'absence de la reine pour le discours du trône suscite beaucoup d'interrogations et de commentaires.
Le discours d'un prince et non pas le discours de la reine coincée à Buckingham pour problème de mobilité. C'est donc son fils Charles qui a pris la parole hier devant le Parlement. Peut-être un tournant dans l'histoire de la monarchie britannique. La reine Elisabeth, qui fêtera les 70 ans de son règne début juin, n'était pas tout à fait absente. Le prince Charles y a fait allusion hier.
My lords and members of the House. Mes lords et membres de la Chambre des communes. La priorité du gouvernement de Sa Majesté est de croître et renforcer l'économie et d'alléger le coût de la vie pour les familles. Le gouvernement de Sa Majesté va créer le terrain propice aux opportunités partout dans le pays et à la création d'emplois. Et en cette année de jubilé de platine, Sa Majesté est impatiente des célébrations qui auront lieu à travers le pays et dans tout le Commonwealth, ainsi que les Jeux du Commonwealth qui auront lieu à Birmingham cet été. Sa Majesté prie pour que Dieu Tout-Puissant vous bénisse.
Le discours du trône prononcé par le prince Charles, propos recueilli par notre correspondante à Londres, Anaïs Cordoba.
On revient en France avec le tennis. Roland Garros débute dans moins de 15 jours. Bonne nouvelle pour Tsonga et Gilles Simon, ils pourront faire leurs adieux à Paris.
Les tournois dont Europe 1 est la radio officielle, les organisateurs leur ont accordé une wild card, une invitation, sésame réservé aux joueurs dont le classement ne permet pas d'entrer directement dans le tableau. Et pour les deux futurs retraités du tennis français, c'est une belle façon de dire au revoir à Axel May.
Oui, Tsonga, 37 ans, ex numéro 5 mondial, tombé au-delà de la 250e place, et Simon, même âge, ex numéro 6, aujourd'hui 160e mondial, vont bénéficier d'une invitation pour service rendu au tennis français, alors qu'ils s'apprêtent à ranger définitivement leur raquette. Amélie Mauresmo est la nouvelle directrice de Roland-Garros.
On avait envie de les accompagner dans cette fin de carrière. Joe sera son dernier tournoi, carrément. Gilles, on le sait, il arrêtera en fin d'année. Donc on a voulu que ce dernier Roland-Garros, pour tous les deux, ils puissent le vivre dans le tableau final, devant leur public, jauge pleine, un stade plein. On l'espère vraiment pour eux. Et puis les remercier aussi, hein, tout simplement, de ce qu'ils ont fait tout au long de leur carrière.
10 autres joueuses et joueurs français bénéficieront d'une invitation pour disputer le tournoi de Roland-Garros, dont Lucas Pouille et Harmony Tan. Pour les autres, soit ils figurent dans le top 100 mondial et n'ont pas besoin de wildcard, soit ils devront passer par les qualifications qui commencent dès lundi prochain.
Axel May du service des sports d'Europe 1.
Et c'était le journal de Christophe Lamar. Merci beaucoup Christophe. On passe aux courses à présent, les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est sur les 1200 mètres de la ligne droite de l'hippodrome de Fontainebleau que va se courir ce Quintet. Attention, 14 partants et non 16 comme initialement prévu, les numéros 9 et 16 ayant déclaré forfait. Priorité aux chevaux ayant hérité d'un petit numéro de corde, le paramètre souvent déterminant pour réussir sur ce tracé. Ainsi, les numéros 8, Forza Capitano, associé au crack jockey Michael Barzalona, qui ne cesse actuellement d'engranger les victoires. 4, Wedjan, troisième d'un quintet similaire sur ce parcours, le 28 mars. Et 6, Snow Empress, facile lauréate ce jour-là, ont tous les trois hérité d'une position idéale dans les stalles de départ. Derrière ces trois priorités, je vous recommande Tudobem, le numéro 3, quatrième de cette même épreuve l'an dernier, mais aussi King Rob, le numéro 12, le compagnon d'entraînement de Tudobem, qui reste sur deux probantes performances dans ce style d'épreuve. Enfin, les numéros 2 Mubaleg, 5 Datiret et 10 Beerhead compléteront ma sélection. Mon pronostic, 8, 4, 6, 3, 12, 2, 5 et 10.
Vous retrouvez tous ces pronostics, bien sûr, sur europe1.fr. Merci beaucoup Thierry Léger.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu.
C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Le jour où, à présent, les grands faits historiques qui racontaient à travers les archives d'Europe 1.
C'est aujourd'hui que s'ouvre le procès en appel des ex-dirigeants de France Télécom. En 2008, commençait une vague de suicides de salariés de l'entreprise. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Julien, bonjour Amblin.
Entre 2008 et 2009, une trentaine de salariés se sont donné la mort selon les syndicats.
Oui, il parle d'un management de la terreur. Le premier suicide remonte à février 2008, un salarié de 52 ans. En 2009, un salarié de 51 ans se suicide chez lui à Marseille. Il avait laissé une lettre à sa famille dans laquelle il pointe ses mauvaises conditions de travail.
Décrit par ses proches comme sportif, il était marathonien. Ce cadre de 51 ans occupait un poste bien spécifique depuis 13 ans dans cette unité marseillaise. Un poste qui venait juste d'évoluer et pour lequel il avait obtenu une augmentation. Mais il ne se sentait pas légitime, explique Olivier Flamand, secrétaire du comité d'hygiène et de sécurité.
Il avait fait part à ses collègues qu'il ne s'en sortait pas là-dessus. Quoi.
Les suicides se poursuivent. En septembre 2009, cet homme a du mal à retourner sur son lieu de travail à France Télécom. C'est là qu'une de ses collègues s'est jetée par la fenêtre.
La chose qu'on évitera tous, c'est de passer à l'endroit où on a vu qu'elle était tombée. J'espère que l'entreprise fermera également la partie de plateau où elle était pendant un certain temps pour respecter le deuil de ses collègues.
C'est un témoignage extrêmement poignant. Les semaines passent et on découvre qu'un plan de réorganisation avait été mis en place au sein de France Télécom 3 ans plus tôt, en 2006, Laure.
Oui, un plan qui prévoyait la suppression de 20 000 emplois et un changement de métier pour 10 000 salariés. En octobre 2009, le PDG de France Télécom, Didier Lombard, s'exprime sur Europe 1 au micro de Jean-Pierre Alcabache. Les 100 000 salariés du groupe vont très mal.
On est en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour que on puisse libérer la parole, c'est-à-dire que chacun puisse s'exprimer.
Est-ce qu'il fallait 24 suicides en 2 ans pour que l'alerte fonctionne dans votre entreprise ?
Alors, tout d'abord, il faut voir qu'en 2002, on était au bord du dépôt de bilan. On a fait des transformations majeures. On les a probablement fait trop vite.
En avril 2011, le suicide d'un salarié de France Télécom est reconnu comme maladie professionnelle. C'est l'organisation du travail qui est à l'origine des autres suicides dans l'entreprise, dit l'avocat de la famille, Maître Tessonnière.
D'une affaire à l'autre, on s'aperçoit que les mêmes causes ont produit les mêmes effets. C'est une situation de délinquance industrielle. Il faut en tirer toutes les conclusions, y compris sur le plan pénal, et j'espère que les procédures en cours permettront de parvenir à ce résultat.
France Télécom, devenue Orange, a été la première entreprise du CAC 40 à avoir été mise en examen pour harcèlement moral. Le procès d'anciens dirigeants de l'entreprise s'est ouvert en 2019.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche, et à demain pour un nouveau jour. Et j'ajoute qu'à 6h10, je reçois la docteure en psychologie Marie Pézé. On va revenir sur ce procès en appel des ex-dirigeants de France Télécom qui commence donc aujourd'hui.
Vous restez avec nous dans un instant sur Europe 1, le bac 2022 et les premières épreuves écrites des spécialités.
Omblin Roche et Julien Pierce
Votre matinale info sur Europe 1.
Il est 5h44 sur Europe 1, excellent début de matinée. Et c'est parti pour le bac 2022 en ce mercredi. Après deux sessions perturbées par la crise sanitaire, les épreuves écrites de spécialité du bac général et technologique se tiennent pour la première fois cette semaine dans le format prévu par la réforme du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. On en parle, Ombline, avec le président du SNALC, le syndicat national des lycées, des collèges, des écoles et du supérieur.
Bonjour Jean-Rémy Girard.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes également professeur de lettres au lycée. Les lycéens vont donc plancher dès aujourd'hui et jusqu'à vendredi sur les deux enseignements de spécialité qu'ils ont conservés en terminale, en complément du tronc commun. Chacune est affectée d'un coefficient 16. Ces deux notes de spécialité représentent un tiers des résultats du bac. Ça, c'est pour le rappel. D'une manière générale, Jean-Rémy Girard, après deux ans de pandémie, dans quel état d'esprit sont les élèves ?
Alors, les élèves sont évidemment assez stressés, mais ils l'étaient déjà du fait du contrôle continu, hein, puisque maintenant 40% du bac est sur contrôle continu. Donc, chaque contrôle qu'on passe en classe, finalement, c'est une épreuve de bac. Mais effectivement, ils sont parfaitement conscients que ces épreuves représentent un tiers du bac et que donc ce sont des épreuves dans lesquelles il faut réussir le mieux possible. Mais globalement, malgré la pandémie, voilà, on a fait, nous, professeurs, tout notre possible pour que les élèves soient dans les meilleures conditions possibles de réussite.
Parce qu'avec la crise sanitaire, le contrôle continu était la règle. On va le dire comme ça, les lycéens savent à quoi s'attendre. Ce sont des épreuves écrites, solennelles.
Oui, les lycéens savent à quoi s'attendre. Alors déjà parce qu'ils ont passé le bac français l'an dernier, donc ils ont quand même passé des épreuves de bac déjà l'année dernière, les écrits de français et les oraux de français. Et d'autre part, parce que évidemment, dans les enseignements de spécialité, on fait quand même beaucoup de contrôles qui sont des épreuves bac, donc effectivement qui fonctionnent comme les épreuves qu'ils vont trouver le jour J.
Et les correcteurs ? Alors ce sont les premières épreuves écrites de spécialité depuis le début de la réforme, on l'a dit plusieurs fois, ils vont se montrer plus cléments, pas nécessairement ?
Les correcteurs vont pas se montrer ni plus cléments ni moins cléments, de toute façon il y a tout un tas de systèmes d'harmonisation en termes de notes de bac, donc on sait très bien qu'entre la note qu'on met et la note à l'arrivée, il y a parfois eu quelques tours de moulinette, mais de manière générale, la plupart des correcteurs étaient déjà correcteurs lors de l'ancien bac, donc ils ont quand même des habitudes de travail sur ces épreuves de spécialité, dont le format ressemble quand même fortement aux anciennes épreuves de bac. La seule grosse différence du point de vue des correcteurs, c'est que là, on est sur une correction dématérialisée, c'est-à-dire des copies numériques, ce qui pose un certain nombre de difficultés, notamment chez des correcteurs qui ne maîtrisent pas forcément incroyablement les outils numériques.
Il faut encore à nouveau changer ses habitudes et se moderniser. Cette édition 2022 du bac se veut la plus normale possible. Alors même si maintenant, comme vous le dites, les copies sont numérisées. La crainte du Covid plane-t-elle encore sur ces épreuves, notamment de spécialité écrite ?
Alors non, la crainte du Covid ne plane pas trop, d'une part parce que bon là les chiffres sont quand même à la baisse, et que d'autre part, à part si les élèves sont incroyablement malades, enfin on sait quand même très bien qu'un élève, même s'il a un test positif, il va quand même venir passer son épreuve. Ensuite, il y a une session de rattrapage, il faut quand même aussi le rappeler, c'est pas parce qu'on est malade le jour de l'épreuve du bac que l'on n'aura pas son bac cette année-là. Il y a une session de rattrapage comme il y en a toujours eu quand on a passé des épreuves au bac.
Rappelons que ces épreuves de spécialité auraient dû se tenir en mars avec le SNES-FSU, le premier syndicat du second degré. Vous aviez demandé à ce qu'elles soient repoussées à cause d'une situation sanitaire encore tendue au début du printemps. A posteriori, avez-vous toujours le sentiment que c'était nécessaire, que les lycéens aujourd'hui sont plus à même de les passer, ces épreuves ?
C'était absolument nécessaire de repousser ces épreuves. Elles ne pouvaient pas se tenir à la mi-mars. D'ailleurs, il y a quelque chose qui le montre très clairement, c'est que les élèves vont passer ces épreuves là à la mi-mai avec le programme qui était prévu pour la mi-mars. C'est-à-dire qu'on a gardé le même programme que pour la mi-mars. Or, ils ont eu quand même deux mois de plus. Donc, on voit bien qu'à la mi-mars, c'était intenable. Nous, on avait été alertés assez tôt, tout particulièrement par les professeurs de spécialité scientifique ou de sciences économiques et sociales qui nous disaient qu'ils ne pouvaient pas tenir le programme prévu.
Le fait de décaler ces épreuves de mars à mai, cela entraîne le fait que les notes ne seront pas prises en compte dans Parcoursup, la plateforme d'admission dans les études supérieures. À quoi vont-elles servir alors, ces notes de spécialité?
Ces notes vont servir à avoir le bac, ce qui est quand même un diplôme important, ce qui est le premier grade du supérieur. Une fois encore, on ne se posait pas forcément la question avec l'ancien système du bac où les épreuves avaient lieu à la fin de l'année, ça paraissait absolument normal à tout le monde. Que les épreuves puissent être mises dans Parcoursup pour aider à l'orientation, en soi, c'est une idée intéressante. Le problème, c'est que Parcoursup a un calendrier qui s'étend sur une très très longue durée, et on le voit bien, l'idée d'avoir des épreuves à la mi-mars l'année prochaine, c'est une idée qui est très problématique. On a plein de défauts à cette idée-là. L'idée que, après la mi-mars, on va avoir du mal à continuer le programme avec les élèves, notamment. Et l'idée qu'il faut, j'allais presque dire, turbiner sur la première moitié de l'année. Parce que c'est pas qu'une question de faire des chapitres, c'est aussi une question de faire acquérir les méthodes aux élèves. Et les méthodes, c'est mieux d'avoir une année scolaire entière pour les acquérir que d'avoir un semestre.
Vous pensez avoir de nouvelles discussions avec le prochain ministre de l'Éducation nationale afin de faire encore évoluer ce baccalauréat?
Oui, alors le SNALC va de toute façon porter cette question du fonctionnement du baccalauréat et du lycée parmi ses revendications auprès du prochain ou de la prochaine ministre. C'est très clair de notre côté. Nous, on a interrogé nos adhérents. On sait que cette situation actuelle ne convient pas, à la fois sur l'organisation du lycée, où il y a un nombre de combinaisons de spécialités tellement délirants qu'on n'en arrive même plus à organiser les emplois du temps et qu'on n'arrive même plus à savoir quelle combinaison il faut pour aller dans quelle orientation du supérieur. Et puis les 40% de contrôle continu montrent déjà cette année tout un tas d'effets pervers, à la fois sur le stress et le mal-être des élèves qui vivent chaque épreuve comme une épreuve de bac, chaque contrôle comme une épreuve de bac, et les stratégies d'évitement. On a eu une bonne note une fois, donc on est absent au contrôle d'après. Et puis les revendications de plus en plus présentes de certains parents d'élèves. Dès que l'élève a une mauvaise note, et bien tout de suite, ça devient une sorte d'affaire nationale parce que effectivement, on est en train d'hypothéquer ses chances d'avoir le bac.
Merci beaucoup, Jean-Rémy Girard, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Europe 1. Vous êtes professeur de lettres au lycée et président du SNALC, le syndicat national des lycées, collèges, écoles et supérieures. Les épreuves écrites de spécialité du bac se tiennent donc dès aujourd'hui jusqu'à vendredi, avant celle de philo et du grand oral programmé entre le 15 juin et le 1er juillet. Merci encore, bonne journée.
Merci.
Europe Matin,
Ombline Roche et Julien Pierce.
Et on souhaite bon courage à tous les candidats au bac. Il est 5h51 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité. Johan Tritz.
Rien n'est fait, rien n'est écrit, battez-vous. Le message d'Emmanuel Macron à ses troupes à un mois des législatives. Un discours motivateur qui a lancé la campagne des 500 candidats présents hier au DOC d'Aubervilliers. Le président qui devrait garder une large majorité à l'Assemblée, c'est en tout cas ce que dévoile un sondage OpinionWay. Son parti obtiendrait entre 310 et 350 sièges. Jusqu'où s'arrêtera Vladimir Poutine après le Donbass? Moscou envisagerait d'annexer la Transnistrie selon les renseignements américains, une région séparatiste de Moldavie qui a fait sécession en 90. Un parent d'élève agressé au couteau à Marseille hier, cela s'est produit devant un collège, l'agresseur a été maîtrisé, le pronostic vital est engagé. Et puis vous l'avez entendu, aujourd'hui c'est un jour particulier pour 523 000 lycéens, c'est le début des épreuves de spécialité du bac. Les trois prochains jours vont être importants, cela représente un tiers de la note finale.
Allez, on prend à présent la direction de vos salles de cinéma avec Laurie Choleva.
Pour parler comme chaque semaine des sorties du mercredi. Bonjour Laurie.
Bonjour Ombline, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Laurie, on commence avec une sortie incontournable.
Oui, c'est la sortie de la semaine, à ne pas manquer, ça s'appelle The Northman et c'est un film de Robert Eggers qui avait déjà réalisé le très sombre The Witch. Alors cette fois, il s'attaque aux Vikings et aux mythes nordiques en s'inspirant d'un célèbre Hamlet de Shakespeare que tout le monde connaît. Mais pour vous situer, c'est à mi-chemin entre le film d'auteur et le blockbuster cauchemardesque. C'est violent, c'est grandiose, c'est une proposition audacieuse, presque unique, j'ai envie de dire, en ce moment à Hollywood. Alors je vous raconte l'histoire pour vous donner encore plus envie d'aller le voir. C'est le jeune prince Hamlet qui a vu son père mourir sous ses yeux et sa mère kidnappée par son oncle qui jure de les venger au moment venu. Des années plus tard, on le retrouve, il est métamorphosé, il se fait passer pour un esclave et il est prêt à tout pour faire justice lui-même.
Mère, je vous vengerai. Mère, je vous sauverai. Fionneur, je te tuerai.
Pourquoi t'enfuir vers cette contrée infernale?
Pour retrouver ce qu'on m'a volé.
Qu'est-ce que c'est?
Le royaume. Nous accomplirons la vengeance dont j'ai fait le serment.
Vous avez un aperçu de l'ambiance grâce au son, mais sachez que le physique d'Alexandre Sarsgaard pour ce film est monstrueux. C'est une montagne de muscles effrayante. Alors à ses côtés, on retrouve avec toujours autant de bonheur la majestueuse Nicole Kidman, mais aussi la chanteuse Björk, Willem Dafoe ou encore Ethan Hawke. Sachez qu'on est happé par cette rage, par cette vengeance. C'est un film qui nous emporte dans un monde sombre, mystique, réaliste, très fidèle à l'époque, dans des décors irlandais, islandais, à vous couper le souffle. Bref, c'est un film qu'il faut absolument voir et qui a coûté la modique somme de 90 millions de dollars. C'est dire si c'est grandiose.
Grandiose, nous sommes prévenus. Merci beaucoup. À présent, Laurie, on parle souvenirs de vacances.
Oui, souvenirs de vacances, mélancolie du temps qui passe ou encore lassitude dans le couple avec le film On sourit pour la photo de François Usant. Alors, c'est l'histoire de Thierry, interprété par Jacques Gamblin, qui est obsédé par le classement de ses photos de famille à tel point qu'il ne réalise pas que sa femme, Pascale Arbillot, s'éloigne de lui pour de bon, jusqu'au jour où elle décide enfin de le quitter. Et là, il va avoir un électrochoc et organiser un ultime voyage en famille pour revivre les super vacances de 98 en reproduisant les moindres détails de cette aventure, en espérant évidemment reconquérir le cœur de sa femme.
Les enfants, réglez vos montres, on est en 98. Allez, photo, photo.
Sympa les vacances en camion poubelle.
Les mêmes vacances qu'il y a 20 ans.
Top chrono.
La même magie.
Moi, ça me dérange de leur mentir. On a décidé qu'on se séparait. Et là, on joue la comédie de la famille unie, c'est ridicule.
Ma femme me quitte. Les enfants pensent que je suis un vieux con. Ça s'en fout.
Bon, c'est vraiment un film doux, amer, plein de nostalgie, beaucoup d'humour aussi, de légèreté, plein d'amour surtout. Cette famille de cinéma, on y croit, elle fonctionne bien, on s'attache à chaque personnage, la fille avocate à la vie plan-plan, le fils joué par Pablo Poli qui a un peu l'ado attardé. Et puis ce couple à la dérive, surtout, va-t-il se retrouver? On dit souvent « vacances, j'oublie tout », mais est-ce que ça va marcher? En tout cas, c'est un très joli film. Écoutez justement Pascale Arbillot nous parler de la naissance de ce film.
Il rentrait de vacances avec ses parents, il avait lui-même déjà 30-35 ans, son père à l'arrivée à l'aéroport, je sais pas où ils étaient, en Italie, lui donne de l'argent de poche. François dit mais à son père, mais ça va, j'ai 35 ans. On ne sait jamais. Et ça a commencé comme ça. Il a passé des vacances géniales, mais en même temps quand même un peu régressives, un peu anormales à 35 ans. Et donc en rentrant, il raconte ça à un ami producteur qui lui arrête tout de suite de parler et écrit un scénario.
C'est un film qui a mis longtemps à se faire, mais c'est une belle histoire car On sourit pour la photo a reçu le prix spécial du jury au Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. C'est vraiment une comédie familiale que je vous recommande.
On sourit pour la photo donc, ainsi que The Northman, deux films à voir en salle à partir d'aujourd'hui. Merci Laurie Choleva. Et on vous retrouve samedi entre 14h et 15h dans votre émission Clap sur Europe 1.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h58, dans un instant la météo, le journal et un procès très attendu.
Oui, le procès en appel des ex-dirigeants de France Télécom qui s'ouvre aujourd'hui à Paris. On se souvient tous de cette terrible vague de suicides de salariés de l'entreprise à la fin des années 2000. Une trentaine d'entre eux s'étaient donné la mort après avoir pointé du doigt un management de la terreur, un harcèlement moral. Voilà de quoi avaient été reconnus coupables trois ex-dirigeants de France Télécom en première instance. Ce nouveau procès, c'est l'occasion de nous poser cette question. Les souffrances au travail ont-elles baissé ou augmenté depuis le déclenchement de cette affaire il y a une quinzaine d'années? Sont-elles mieux prises en compte ou à l'inverse toujours minimisées, voire méprisées? On en parle dans une dizaine de minutes avec Marie Peset, docteur en psychologie et spécialiste des souffrances au travail. Et puis juste après, Omblin, votre partition.
Une reine de la nuit, une image d'un visage et d'un corps façonné par Jean-Paul Goude ainsi qu'une James Bond girl. Grace Jones sur Europe 1 dans la partition dans 20 minutes.
La météo, Anissa Haddadi, une très belle journée.
Oui, le soleil domine. Voilà, ça va être simple. Ce matin, vous ne partez pas sans vos lunettes de soleil. Surtout, c'est l'outil obligatoire pour passer une belle journée parce que le soleil va briller partout, sauf si vous nous écoutez sur le Finistère et le Cotentin. Voilà, là, c'est couvert. Il y aura un peu plus de nuages. Des nuages qui seront porteurs d'averses et des nuages qui avancent jusqu'en Loire-Atlantique cet après-midi. On a un petit peu de vent qui se lève aussi sur les côtes de la Manche et sur le Roussillon, un vent marin jusqu'à 60 km/h. On a 7 à Massiac ce matin, 9 à Rennes, 11 pour Ajaccio et Lille, 12 à Brest, 13 à Paris et 16 à Nice.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1, nous sommes le mercredi 11 mai. Et il est 6h. Et à la une, un procès qui ravive les plaies. Les ex-dirigeants de France Télécom jugés en appel pour harcèlement moral. Les prêteurs sur gage débordés. Pour boucler les fins de mois, de plus en plus de Français poussent les portes du crédit municipal. Et puis si vous aimez les fruits, bien juteux, bien sucrés, restez avec nous, la récolte 2022 sera savoureuse. On vous explique pourquoi.
Europe Matin, Omblin Roche. Roche et Julien Pierce.
Et le journal de 6h vous est présenté par Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Julien, bonjour à tous. C'était devenu le symbole de la souffrance au travail à la fin des années 2000 après une vague de suicides. Le procès France Télécom repart pour 2 mois. 6 cadres font appel de leur condamnation pour harcèlement moral ou complicité devant la cour d'appel de Paris. Gladys Laffitte, un nom sort du lot, celui de l'ancien PDG Didier Lombard.
Oui, à 80 ans, il va de nouveau devoir s'expliquer sur la politique qu'il a mise en place au milieu des années 2000 pour réduire drastiquement les effectifs de France Télécom. Le tribunal a estimé en première instance que Didier Lombard a eu un rôle prééminent dans cette politique à marche forcée aux moyens interdits, je cite. Au total, 22 000 départs qui devaient se faire par la fenêtre ou par la porte, selon les mots de Didier Lombard à l'époque des faits. Le tribunal l'avait donc condamné à 1 an de prison, dont 4 mois ferme, tout comme l'ex numéro 2 de France Télécom. À leur côté, 4 ex-responsables sont aussi rejugés. Tous sont suspectés d'avoir participé ou d'avoir été complices du harcèlement moral de salariés. Mutations forcées, baisse des salaires, mise sur la touche ou encore harcèlement par mail pour accélérer les départs. Au total, 19 suicides avaient été examinés par la justice et 12 tentatives de suicide.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1.
Dernier conseil des ministres, a priori, du gouvernement Castex aujourd'hui. Qui Emmanuel Macron va-t-il désigner pour lui succéder ?
Alors, le chef de l'État déclare le savoir, mais il entretient le suspense. Hier, en tout cas, il s'est surtout employé à galvaniser ses troupes à Aubervilliers en vue des législatives pour décrocher une majorité et agir. Ne vous laissez pas intimider, battez-vous, voilà ce qu'il a dit.
Emmanuel Macron qui a promis une loi sur le pouvoir d'achat, Bercy fait un premier pas aujourd'hui.
En recevant les associations de consommateurs qui alertent sur les difficultés de ces Français à remplir le frigo, payer les factures, faire de l'essence. Alors tous les moyens sont bons, comme laisser au crédit municipal ses bijoux, c'est une tendance à la hausse. Reportage de Benjamin Péter à Toulouse où la fréquentation augmente en ce moment de 10%.
C'est la première fois qu'Anissa pousse la porte du crédit municipal.
J'ai amené une bague et des boucles d'oreilles. Depuis un or qui est en plus de ça dans la famille depuis longtemps.
Elle qui est employée comme magasinière repart avec 250 euros de prêt sur gage qu'elle devra rembourser ou prolonger dans 6 mois. Un coup de pouce essentiel pour elle en ce moment.
Pour pouvoir s'en sortir et finir les fins de mois. Avec le prix de l'essence qui a augmenté, les prix qui ont augmenté dans les magasins, tout ça. Donc on a besoin de ça. C'est juste le temps voilà, de pouvoir se remettre sur les rails et en espérant que les prix baissent un peu parce que là c'est assez difficile.
Depuis le début de l'année, ils sont à peu près 80 chaque jour à déposer un objet ici. Une affluence que Franck Pindessous, le directeur du Crédit Municipal de Toulouse, n'a pas connue depuis la crise financière de 2008.
On est un petit peu la roue de secours. On est là vraiment pour les aider à s'en sortir. Le prêt moyen est de 600 euros. Beaucoup des objets en or en fait. Et avec la crise économique, on constate que les cours de l'or sont très élevés actuellement, ce qui nous permet de leur prêter plus.
Et si en moyenne 9 personnes sur 10 récupèrent leurs biens et remboursent leurs prêts avec les intérêts, ils redoutent que la dégradation de la situation économique ne contraignent beaucoup de ses bénéficiaires à finalement abandonner leurs biens chez ma tante.
Alors, ma tante
à Toulouse,
c'est...
Benjamin Péter, Europe.
Ma tante, c'est comme le monde piété, hein. C'est l'autre nom pour désigner le crédit municipal. Pas de récession à craindre en tout cas, mais une inflation à redouter, nous dit l'INSEE qui revoit ses prévisions pour le deuxième trimestre. Au programme, timide redémarrage de l'économie et hausse encore des prix.
Il est 6h et bientôt 4 minutes sur Europe 1. On vous a beaucoup parlé de la chaleur et de la sécheresse ces derniers jours. C'est une mauvaise nouvelle pour les agriculteurs, mais peut-être une bonne pour les consommateurs.
Notamment si vous aimez les pêches, les abricots, tendez bien l'oreille. Cet été, les fruits seront plus sucrés, plus goûteux parce qu'ils seront récoltés plus tôt. Françoise Roch est la présidente de la Fédération nationale des producteurs de fruits.
Si on a des pluies, on a les fruits qui sont plus gorgés d'eau et donc on ressent moins le sucre. Et si le fruit il est un peu moins gorgé d'eau, automatiquement son taux de sucre augmente et ça se sent beaucoup plus. Et après, on a tous les arômes qui se développent, etc., quand le fruit est un petit peu plus concentré, qu'il est moins gorgé d'eau. Disons que pour les consommateurs, une année comme celle-ci, si le soleil continue, on aura des fruits beaucoup plus goûteux, plein de soleil, plein de sucre, plein d'arômes. On sait pertinemment que le consommateur, quand il goûte nos fruits, il revient grâce au goût et va nous suivre toute la saison pour nos fruits d'été et qu'on pourra et lui faire plaisir et que nous, on devrait passer une bonne saison.
Voilà, on se lèche déjà les babines avec Françoise Roch, présidente de la Fédération nationale des producteurs de fruits qui reconnaît tout de même qu'un peu plus au mois de juin, ça ferait évidemment du bien. Elle répondait à Yasmina Katouf.
Des fruits que vous pourrez déguster avec du konjac ou de l'aloumi. Et si vous n'avez pas du tout compris ce que je viens de dire, c'est parfaitement normal.
Alors le premier est un tubercule, le deuxième un fromage chypriote et il vous faudra effectivement un petit peu de temps pour vous familiariser avec ces nouveaux mots du Larousse. Au total, 150 nouvelles définitions font leur apparition
apparition. Céline Géraud, c'est toujours un indicateur de l'évolution de la société.
Oui, et sans surprise, plusieurs termes liés à la pandémie de Covid-19 font leur entrée dans cette nouvelle édition. Karine Girac-Marinier, directrice du département parascolaire et beau livre des éditions Larousse.
On a à la fois des mots nouveaux et des sens nouveaux liés au Covid, avec notamment le pass vaccinal, le pass sanitaire, la fatigue pandémique, les notions d'enfermiste, de rassuriste. Et on a également beaucoup de nouveaux mots en gastronomie, comme par exemple le poké qui vient de Hawaï avec les pokéballs, ou les fromages chypriote, le halloumi et le lamné qui vient du Moyen-Orient.
La transformation numérique engendre elle aussi de nouveaux mots, comme par exemple vélotypie, technique de saisie de texte qui permet d'écrire à la vitesse de la parole, ou le crypto-art, mouvement artistique virtuel qui produit des NFT. Il y a aussi des mots reflets de notre actualité comme wokisme, grossophobie, cyberharcèlement, précautionnisme. Enfin, parmi les 40 personnalités qui intègrent le chapitre des noms propres, le coureur cycliste Julien Alaphilippe, le chef étoilé Thierry Marx ou encore le comédien François Damiens.
Et même le footballeur du PSG Kylian Mbappé fait son entrée, c'était Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1.
Et c'était le journal de Lénaïque Monnier, merci beaucoup Lénaïque.
6h06, on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques, appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange avec deux matchs décisifs, Martin, ce soir en Ligue 1.
Oui, deux matchs en retard de la 36e journée, Nantes, vainqueur de la Coupe de France le week-end dernier, accueille Rennes en course pour la Ligue des Champions, tandis que le vainqueur du week-end, un Nice espère lui aussi accrocher le wagon européen. Les Aiglons reçoivent Saint-Etienne, des Verts qui eux pourraient faire un grand pas vers le maintien ce soir. Leur entraîneur Pascal Duprat.
Le luxe, c'est d'être maître de notre destin, quoi qu'on en dise. C'est un match capital. J'ai hâte de vivre les 15 jours que nous allons vivre ensemble. C'est ce que je répète à l'envie aux joueurs.
Une victoire stéphanoise ce soir qui condamnerait définitivement Bordeaux, actuellement lanterne rouge.
Dans le reste de l'actualité foot, Martin.
Le premier gros transfert de l'été, Erling Haaland, l'attaquant du Borussia Dortmund, rejoint Manchester City, montant de l'opération 75 millions d'euros. Et puis la nouvelle formule de la Ligue des Champions officialisée, 36 équipes, un mini championnat comme phase de poule, mais pas de Final Four, entrée en vigueur en 2024.
Un mode de sport mécanique à présent.
Oui, avec la Fédération Française de Moto qui inaugure aujourd'hui une école de pilotage pour les enfants dès 6 ans. Parmi les pilotes en herbe, il y a peut-être le prochain Fabio Quartararo. Le président de la FFM, Sébastien Poirier, explique que tout est fait pour que les petits fassent comme les grands.
Une combinaison cuir comme les grands, un casque comme les grands, et une moto surtout qui est vraiment totalement adaptée à leur âge. C'est un parcours de progression de manière totalement apaisée que l'on propose à travers cette école La Bénisière.
Sébastien Poirier, joint par Axel May, Carole for Kids, c'est le nom de cette école.
En bref, pour finir, Martin.
Du rugby à une Française élue meilleure joueuse du tournoi Destination, l'admin mêlée Laure Sensus, meilleure marqueuse de la compétition. Et puis un mot de tennis, on connaît les joueurs invités par l'organisation dans le tableau du prochain Roland-Garros. Quelques jolis noms, notamment Joe Wilfried Tsonga et Gilles Simon, les deux mousquetaires qui disputeront leur dernier tournoi Porte d'Auteuil.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous dans un instant, on va parler souffrance au travail avec Marie Peset, docteur en psychologie. À tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Il est 6h11 sur Europe 1. Votre invité Julien est docteur en psychologie, ancien expert judiciaire et responsable du réseau de consultation Souffrance et Travail.
Bonjour Marie Peset.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous ce mercredi matin, jour de l'ouverture du procès en appel de plusieurs ex-dirigeants de France Télécom qui avaient été condamnés en première instance pour harcèlement moral, et ce à la suite d'une vague de suicides de salariés qui nous avait tous marqués à la fin des années 2000. D'où ma question, est-ce qu'il y a eu un avant et un après France Télécom sur les problématiques de souffrance au travail ?
Non, il y a un avant et un après France Télécom sur la question, bien évidemment, des jugements qui tombe sur les dirigeants d'entreprise qui utilisent le harcèlement moral comme méthode de management. Mais la souffrance au travail est malheureusement présente dans ce pays depuis des décennies et ne cesse d'augmenter. En tout cas, c'est la réponse de la DARES, la direction au ministère du Travail qui s'occupe des statistiques sur ces questions, puisqu'en 2019, 40% des salariés français souffrent de conflits éthiques au travail, c'est-à-dire de l'impossibilité de faire correctement leur travail.
Comment l'expliquez-vous ?
La souffrance au travail, ça s'aggrave. Je ne pense pas que ce soit très compliqué pour les auditeurs qui nous écoutent et qui vivent ça au quotidien, de s'expliquer la souffrance au travail, l'intensification du travail, la baisse des effectifs partout, le numérique et les process qui viennent procéduraliser à outrance le travail, et puis le TTU, hein, vous savez, le très très urgent dans lequel nous sommes tous, vous y compris, et qui accélère de manière frénétique le rythme de travail, poussant les organismes à leur point de rupture avec la vague de burn-out que nous vivons.
Mais il tout faut ça, signaler... on le dénonçait déjà il y a une quinzaine d'années, les salariés France Télécom le dénonçaient déjà, ce harcèlement permanent. Pourquoi tout ça n'a pas évolué finalement ?
Eh bien, je crains que la réponse ne soit assez triste. Nous sommes quatrième en productivité horaire au rang mondial, bien qu'on raconte que nous sommes trop lents au travail, et c'est grâce à ces pressions morales et physiques exercées partout. Le salarié français, qui est un salarié particulièrement investi au travail, n'aurait pas besoin de cette flagellation constante pour bien travailler, parce que c'est sa raison d'être, s'engager dans le travail. Mmh. Et donc les organisations du travail ne cessent d'accentuer ces pressions, de même que les nouveaux modes de management.
Vous avez mentionné il y a quelques instants le burn-out, l'état d'épuisement professionnel en bon français. Il n'est toujours pas considéré comme une maladie en France. Pourquoi ? Parce que ça fait peur aux législateurs ?
Parce que c'est très compliqué, vous le savez, de transformer cette maladie moderne en un tableau clinique qui serait assez clair pour l'inscrire dans les tableaux de maladies professionnelles.
Vous n'y êtes pas favorable, vous ?
Personnellement, je n'en vois pas la nécessité, parce que les médecins conseils de notre sécurité sociale ont été d'une inventivité extraordinaire et autorisent maintenant de déclarer un burn-out au décours d'une crise de nerfs ou d'un malaise, d'un évanouissement sur le lieu de travail, en accident du travail, ce qui est une procédure bien plus simple que la déclaration en maladie professionnelle. Dans le réseau, nous n'avons aucun souci sur cette affaire de déclaration en maladie professionnelle. Il y a eu 30 000 accidents l'année dernière pour lésions psychiques.
Marie Peset, est-ce que la souffrance au travail a changé de forme ? Est-ce que les symptômes, les profils sont différents par rapport à ce que vous constatiez il y a une quinzaine d'années ?
Totalement. Totalement. Actuellement, ce que nous voyons arriver dans nos consultations, c'est ce qu'on appelle couramment l'élite de la nation, c'est les cadres sortis des grandes écoles, les directeurs d'hôpitaux, les chefs d'entreprise, qui présentent des tableaux d'épuisement et surtout d'atteintes cognitives extrêmement inquiétants. Nous sommes obligés de leur faire passer des bilans neuropsychologiques qui démontrent que leurs compétences intellectuelles sont définitivement entamées. Ce qui nous inquiète aussi, c'est ce que nous appelons les suicides blancs. C'est-à-dire, pas comme chez France Télécom, ces suicides d'immolation dans la cour de l'immeuble ou de ces défenestrations qui étaient des gestes de désespoir et d'alerte à la direction de l'entreprise tellement sourde. Ce sont des suicides de salariés qui nous disent « Moi, je veux juste que ça s'arrête. Je suis pas déprimée, j'aime la vie. Mais là, je n'en peux plus, je voudrais dormir. » Et donc, ce sont des suicides de personnes qui ne savent plus comment s'extraire de la pression qu'ils vivent. C'est très inquiétant, ce phénomène.
Et les managers, dans tout ça, vous y avez fait référence, puisque c'est le nouveau public que vous voyez arriver, des cadres supérieurs. Ils sont donc à la fois bourreaux et victimes ?
Oh, écoutez, je crois qu'il faut sortir de ces terminologies, parce que nous subissons tous l'intensification du travail et la pression temporelle. Ils ne font que transmettre comme courroie de transmission les injonctions des directions à faire plus avec moins et plus vite. Parce que c'est ça qu'il faut rappeler. Celui qui réussit en 2022, c'est pas comme autrefois le plus diplômé ou celui qui aurait les compétences corporelles les plus extraordinaires. C'est le plus rapide. Et ça, c'est infaisable. Il y a un moment où, à force de pousser l'organisme à sa limite, l'organisme s'écroule. Par des AVC, par des accidents cardiaques, par des diabètes insulinodépendants, par des accidents somatiques. Oh, les troubles du sommeil, qui n'en a pas ? Si vous faisiez une statistique, tout le monde lèverait la main.
Merci beaucoup Marie Peset d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie et responsable du réseau de consultation Souffrance et Travail. Je vous souhaite une excellente journée.
Merci à vous.
Vous restez avec nous. Dans un instant, la partition de Grace Jones sur Europe 1.
Votre partition pour terminer, Omblin, une partition consacrée à une figure mythique des années 70 et 80, égérie absolue de la mode et de la publicité, Grace Jones.
Oui, une beauté singulière, Julien, des pommettes saillantes, des sourcils affûtés, un large sourire rouge, un regard qui nous transperce et des jambes interminables. Grace Jones, avec son allure androgyne, a inspiré les plus grands photographes.
Grace Jones naît Beverly Jones en Jamaïque.
La fille d'un prédicateur qui enseigne la foi et la Bible. Avec son ceinturon à portée de main, l'épaisseur de la ceinture dépend de l'ampleur de la punition.
Et elle n'a pas encore 18 ans lorsqu'elle s'installe aux États-Unis.
Grace Jones s'échappe de cette première partie d'existence misérable en rejoignant le monde impitoyable de la mode et met le cap sur Paris en 1970.
En France, devant sa caméra, Jean-Paul Goud sculpte sa créature.
Oui, la réinvente, joue avec la géométrie de ses traits, la noirceur de sa peau. Grace Jones raconte qu'elle était enfant, quand elle était enfant dans la campagne jamaïcaine, elle était une luciole dont on ne voyait que les dents et les yeux à la tombée de la nuit. Elle devient une icône, symbolise l'autorité féminine. Grace Jones déniche des contrats en or et elle devient une figure centrale de la mode parisienne et du disco.
Elle partage sa vie entre la capitale française et New York.
Déesse de la nuit, les soirées sont extravagantes et sans fin au célèbre Studio 54, le repère des jet-setters new-yorkais. Inspiré par ce temple du disco à Paris, le théâtre du Palace est transformé en boîte de nuit très sélective. Elle est d'ailleurs invitée à la soirée d'ouverture en mars 1978.
Et ce sont sans doute toutes ces nuits passées au Palace qui poussent Grace Jones à se lancer dans la musique.
Une musique forcément disco, elle reprend des chansons de Broadway et sa fameuse version de La vie en rose qu'elle réservait jadis aux habitués du Palace. Toujours à la pointe de la mode, Grace Jones se met à la New Wave quand les années 80 commencent. L'album Night Clubbing est son plus grand succès. Sur la pochette, on la voit plus androgyne que jamais. Une beauté glaciale dans son veston pour homme aux épaules carrées, la cigarette au coin des lèvres. Une photographie signée Jean-Paul Goud. Avec Liber Tango, I've Seen That Face Before, extrait de l'album Night Clubbing, sorti il y a 41 ans, le 11 mai 1981. Grace Jones, mannequin, chanteuse et comédienne, elle reste l'inoubliable Mayday, la méchante James Bond girl dans Dangereusement Vôtre, avec Roger Moore en 1985.
Évidemment, merci beaucoup Omblin. Vous restez avec nous dans un instant, la matinale se poursuit avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.
Europe Matin,
6h27. Merci d'écouter Europe 1. Bonne matinée.
Et merci de nous retrouver demain à partir de 5h. Et merci de continuer à écouter Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.